Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Il y a 27 ans, Paul Veyne pouvait dire que son époque n'apprenait plus beaucoup de latin. Que dire aujourd'hui ? Qui prétendra que les langues classiques se portent bien en France et en Europe ? Malgré le soutien dont ils bénéficient, l'enseignement de cette discipline traverse depuis plus de 20 ans une période difficile. On ne peut s'interroger sur la rage démagogique qui consiste à supprimer l'étude de langues qui reste pourtant indispensable à tous ceux qui portent quelque intérêt à notre patrimoine historique. John Shedd, leçon inaugurale, 2002. John Shedd, vous êtes né à Luxembourg, vous y faites vos études secondaires, puis vous venez poursuivre vos études supérieures en France, d'abord à Strasbourg, puis à Paris. Vous êtes agrégé de grammaire, vous avez été membre de l'École française de Rome, vous avez dirigé de nombreux chantiers archéologiques, vous avez été directeur d'études à l'École pratique des hautes études en section des sciences religieuses. Vous êtes professeur au Collège de France depuis le 7 février 2002, responsable des relations internationales du Collège de France, vice-administrateur du Collège de France, membre de nombreuses académies, de conseils scientifiques internationaux. Vous êtes couvert d'honneur et remplissez de nombreuses fonctions savantes dans le monde. Les auditeurs de l'Éloge du Savoir suivent vos cours consacrés à la religion, aux institutions et à la société de la Rome antique depuis plus d'une dizaine d'années. John Shedd, parlez-nous des Romains.
Les Romains, c'est une grande civilisation qu'on a assassinée un peu au moment des invasions. Il y a un récent livre de Brian Ward Perkins qui décrit ça très bien. Mais il ne faut pas oublier que quand on les a, il ne s'agit pas de les idéaliser, quand on a construit cet ensemble nolens volens, parce qu'ils ont aussi été aspirés un peu par le vide, les Romains étaient une bande de pillards et de reîtres qui pleurnichaient à longueur de pages de Tite-Live, plus tard bien entendu, sur ces horribles italiques des Abruzes qui ne faisaient que piller et brûler. Mais ils étaient un des pions du groupe. C'était la même chose. Et ils rasillaient, ils pillaient. Et ils ont eu un point qui, pour nous, constructeurs de l'Europe, était absolument génial. Ils n'ont pas eu, comme les cités du monde grec, ou comme Athènes, par exemple, cette notion de l'autochtonie. Ça, c'est nous, nous sommes d'ici, et tous les autres sont différents. Les Romains, dès le début, on ne sait pas quand ça commence, se sont vus comme des colons, des immigrés dans leur propre patrie. Et ça en a fait les chefs de la Ligue latine, de ces quelques 30 cités qui formaient le cœur même du dispositif qui conquérera l'Italie et le monde. Mais ils se voyaient comme l'un des autres, et non pas nous et les autres.
Comment est-ce que vous expliquez ça,
Je ne sais pas d'où ça vient. Tout leur mythe raconte cela. Nous sommes, Romulus et Rémus viennent d'Albe la Longue. Ceux d'Albe la Longue viennent de l'Avinium et de Troie. Ce sont des immigrants dans leur propre patrie. Et ce mythe a été développé très tôt. Et c'était quelque chose d'absolument central, la clé de voûte de l'alliance romaine. Parce que par là, les Romains ont toujours considéré comme normal, majoritairement, de naturaliser, comme nous dirions, les étrangers. Un esclave qui était affranchi devenait citoyen romain. c'est une société inégalitaire, donc la citoyenneté n'est pas comme chez nous, une et unique pour tout le monde. Il y avait différents degrés, par exemple si vous aviez des origines serviles, pendant un premier stade, vous étiez quand même un peu inférieur aux autres, parce que d'abord vous dépendiez toujours de votre ancien patron, comme on disait, votre propriétaire, qui avait encore un peu la main sur vous, et puis vous étiez empêché de vous présenter à des élections, etc. Mais vous deveniez, après une génération, votre fils pouvait déjà commencer l'ascension sociale. Les étrangers aussi étaient naturalisés romains très facilement, ce qui fait que Rome était au cœur d'une alliance de cités et de peuples qui pouvait produire, mettons, vers le IIIe siècle, au moment où il y a l'affrontement avec une cité démocratique, Carthage, qui était nettement plus démocratique que Rome, a tourné à l'avantage de Rome, puisque en face, par exemple, la Deuxième Guerre Punique, il y avait un général génial, Hannibal, qui savait vraiment faire la guerre et qui battait tous les corps d'armée romains, il les détruisait, qui étaient face à lui. Mais c'était une histoire sans fin, parce que lui, il avait des moyens limités à l'ancienne, en quelque sorte. C'était l'armée d'une cité avec ses quelques alliés, alors que les Romains, on leur détruisait un corps d'armée, par exemple à Cannes. L'année d'après, ils étaient de nouveau là avec un nouveau corps d'armée, parce que cette masse d'alliés et de gens qui étaient aux marges de la citoyenneté étaient inépuisables. Et les Romains étaient les chefs de la mondialisation. Donc à partir de là, à partir de la guerre punique, où ils étaient entrés par ces guerres incessantes au centre du jeu mondial politique de la Méditerranée, ils sont devenus peu à peu les conquérants du monde. On les appelait à l'aide partout, et quand on ne les appelait pas, ils mettaient leur nez dans les affaires des autres. Et c'est une époque terrible pour les Romains, comme et les Italiques, comme pour les autres, parce qu'il y a eu des massacres sans fin, des guerres sans fin, et puis ça s'est terminé par un siècle de guerre civile à Rome qui était autrement brutale et terrible. Et puis ça s'est épuisé en quelque sorte au début de notre ère avec Auguste. Et à ce moment-là, on commence à penser cet ensemble. Et là, le droit romain entre sur scène et construit un droit prévu théoriquement pour Rome, au bord du Tibre, et qu'ils étendent à des gens qui n'y avaient pas droit en principe, en faisant des fictions juridiques, on faisait un peu comme le principe de subsidiarité dans le droit européen. Cette construction étrange entre droit d'un État et droit collectif. Et les Romains poursuivent ça pendant des siècles, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a leurs droits, en gros. L'Europe vit sur un socle de droit romain, le droit civil, mais aussi en partie le droit public.
Et le latin était la langue partagée par tous.
Le latin était la langue partagée par tous. Le latin et le grec, il faut le dire, parce que les Romains, disons à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les élites romaines sont bilingues et biculturelles. Et sous l'Empire, ça ne fait que croître. Hein. Le monde entier est biculturel et bilingue, même si certains, Augustin par exemple, une certaine snobisme dit qu'il ne connaît que le latin, pour le grec, il faut qu'il se fasse aider. Mais bon, c'est des coquetteries de l'auteur, il connaissait. Mais il y a des mouvements. Hein. Le premier siècle, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, c'est clair, est latin. Parce que les Romains, la culture romaine explose. Ils réécrivent toute leur littérature dans le contexte nouveau mondial. Virgile compose l'histoire du peuple romain en s'inspirant de l'Iliade et de l'Odyssée. Ovide écrit les Métamorphoses, où il fait de la concurrence à Virgile en racontant l'histoire du monde par des transformations permanentes qui utilisent les mythes grecs du début à la fin. Et ça aboutit à la conquête du monde par les Romains et à la dernière métamorphose réussie, celle de César en divinisé, et celle d'Auguste qui était en perspective. En disant aussi, dans une pièce qui est consacrée au dieu Vertumnus, la fin, ce ne sont que des mythes romains, en quelque sorte. Et Vertumnus, c'est le dieu du changement, de la métamorphose, c'est le principe même de la métamorphose, il est changement. il permute tout ce qu'il touche et lui-même est permuté dans toutes les situations où il se trouve. Et ça devient, quand on le lit de très près, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est racontée entre Vertumne et Pomone, la déesse des fruits, et,
oui.
qui est une déesse latine d'ailleurs, pas romaine. Et on voit comment Vertumne transforme en romain tout ce qu'il regarde et ce qu'il touche. Et c'est un peu les métamorphoses, c'est un peu une sorte de métaphore de la conquête du monde par les Romains. Nous ne pétrifions pas, parce qu'il raconte en même temps que Pomone et Vertumne, qui est courtisé par Vertumne et qui prend toutes les apparences possibles, jusqu'au moment où il dit « bon, bah, si c'est comme ça, je m'en vais » en quelque sorte. Et là, Pomone voit sa vraie nature et cède, et entre dans la culture romaine, si vous voulez, sur le plan métaphorique. Et avant, il racontait une histoire de deux amoureux grecs où un jeune homme transi languissait devant la porte d'une belle qui, elle, avait le cœur de pierre et qui l'a laissé. Le pauvre homme est mort de chagrin et elle s'est pétrifiée, s'est transformée en statue.
Donc c'est exactement
sorte.
L'inverse. Quoi.
C'est l'inverse et c'est la culture grecque, ça. Il dit en gros, c'est très impérialiste. Là, vous voyez, on est passé sur un autre plan, on ne tape plus sur la tête des gens, mais on dit, ce que vous avez dans la tête, c'est une culture magnifique. Vous voyez, je la raconte au monde entier, mais elle est sclérosée, elle est pétrifiée. Il faut que vous vous ouvriez aux autres. Et c'est un peu ça, les métamorphoses. Donc, le premier siècle, avant et après, c'est un peu ça. Vraiment l'explosion de la culture romaine. Après, au deuxième siècle, après Tacite, en gros, il y a encore des grands personnages comme Apulée, mais la culture mondiale rebascule vers le grec. C'est le néoplatonisme qui se développe et les historiens, Hérodien, Cassius Dion, sont des Grecs, des gens d'Asie mineure ou d'ailleurs, qui écrivent en grec. Marc Aurèle lui-même, rédige ses pensées pour lui-même en grec, parce qu'il avait eu la même éducation que Scipion, que toute l'élite en grec. Hein. Et puis, ça, Plutarque est celui qui lance le mouvement. Et puis, ça évolue de nouveau, et quand on arrive vers 300, au 4e siècle, de nouveau, il y a un mouvement de balanciers vers le latin. Parce que l'Église primitive, jusqu'en 200, parle grec. Et à Rome, l'Église, c'était un phénomène d'hellénophones, de gens venus de Syrie, d'Égypte, etc. Et puis, vers 200, l'Église est tellement implantée que des élites impériales commencent à devenir chrétiens et à écrire. Et Tertullien, par exemple, qui écrit vers 200-220, est un juriste romain qui écrit en latin. Et à partir de ce moment-là, le mouvement n'ira qu'en s'amplifiant. Augustin écrit en latin, pas en grec.
Ça va donc avec la christianisation, c'est ça ?
C'est un des effets de la christianisation est dans ce mouvement qui rebascule, mais peut-être plus tôt que le reste de la culture dans le monde, dans la culture proprement latine, dans la langue latine, disons. La culture n'est pas latine du tout, elle
Bien
est
sûr,
mondiale.
Oui.
Mais ils écrivent latin. Et à partir de Julien l'Apostat, par exemple, Ammien Marcellin écrit en latin, Julien lui-même écrit en latin, etc. Il y a des mouvements comme ça qui traversent le monde. Et puis quand on fait la grande collecte du droit jurisprudentiel, puisque les empereurs passaient leur temps à répondre à des questions de droit, c'était leur principal métier, si vous voulez, à la fin de l'Antiquité, on commence à collectionner tout cela et le mettre dans des traités, et puis à le transcrire dans des codes, sous Théodose et Justinien. Ben, ils le font en latin, et le Moyen-Âge sera latin, chez nous
Absolument,
en tout cas.
Bien sûr,
et le monde
oui.
byzantin sera grec, mais c'est ainsi que les choses bougent du point de vue culturel. Mais c'est une vraie mondialisation de la culture, de la langue, des langues, des deux langues. L'araméen a été oublié dans ce partage, et, alors qu'il restait très fort sur place. Hein, c'était la langue impériale ou royale, si vous voulez, sur place pendant très longtemps. Et puis, il y a le droit qu'on apprenait en latin. Même à Beyrouth, il y avait une grande école de droit où toutes les élites d'Asie allaient, mais on parlait latin. Le droit romain était enseigné en latin.
Est-ce que nos juristes font encore du latin aujourd'hui?
Ah là là, non. Il faut qu'ils soient fous parce que ça ne leur apporterait rien. On peut l'espérer, mais disons à partir du master et de la thèse, certains, heureusement, en font encore. Enfin, le réapprennent parce que plus personne n'apprend le latin en France de façon sérieuse. Et donc, il faut qu'ils l'apprennent au moment où ils font leur thèse. Mais ils font quand ils font du droit civil, ils font du droit latin. Hein. C'est du droit romain, si vous voulez. Traduit, certes, mais... Et ceux qui sont historiens du droit, ils connaissent les textes. Mais les professeurs que j'ai connus pendant mes études et ma vie active, évidemment, connaissaient le latin. En Italie, on connaît encore le latin. Les juristes italiens de droit romain connaissent très bien le latin.
Comment est-ce que vous expliquez cette déshérence des études latines en France?
Je ne sais pas à quoi ça tient.
Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis?
C'est le dépérissement des classes littéraires. On n'a pas voulu faire des classes littéraires aussi fortes que les classes scientifiques. C'est un déni d'histoire.
Ça ferme le monde.
Et d'ailleurs, l'abandon du latin et du grec, disons, comme référence culturelle, est suivi par l'abandon de l'histoire. On n'a même plus le droit, souvent, dans les programmes, maintenant, de citer l'histoire.
C'est
et
vrai.
Quand on regarde les programmes d'histoire dans le secondaire, c'est hallucinant. Enfin, moi, je n'ai jamais compris qu'en France, on ne sache pas qui est Philippe Auguste, qui est Napoléon, qu'on ne connaisse plus la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où on se fait répondre, mais... Vous dites ça, mais qui vous le prouve, etc. C'est votre opinion et tout ça est accepté comme normal. Ça ne suscite pas au ministère un scandale, etc.
C'est une amnésie
une
dangereuse.
Amnésie totale et extrêmement dangereuse, contre laquelle, déjà dans ma leçon inaugurale, je signalais déjà cela.
John Shedd, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes engagé plus singulièrement du côté de la religion romaine que nous découvrons grâce à vous comme une altérité totale? Et d'ailleurs, vous ne cessez de répéter dans vos cours à quel point il faut tenter de l'entendre, cette religion, avec d'autres oreilles que les oreilles formées par le christianisme,
les nôtres,
justement.
Oui. Quand j'ai commencé mes études... J'avais découvert un gisement d'inscriptions très intéressant que j'étudiais du point de vue des prêtres qui étaient nommés et j'essayais de reconstruire un peu ce qu'on pouvait savoir de ce culte, de ces services religieux.
C'était où?
C'était à Rome, c'est dans la banlieue de Rome,
ouais.
c'est les frères Arval sur
Mais
lesquels
oui.
j'ai travaillé. Et il y avait des descriptions interminables de rites religieux. Je n'y comprenais rien. Et je faisais comme tout le monde avant moi. Je ne regardais pas, je ne m'interrogeais pas. Moi, je regardais M. Tartampion et je faisais des listes, je faisais l'évolution. C'était une étude de l'élite sénatoriale par ce biais. Et puis, par le hasard du cheminement scientifique, on m'a demandé de publier ces inscriptions. Au moment où je commençais à fouiller l'endroit où elles avaient été trouvées, où on n'avait plus rien fait depuis un siècle, ça n'avait été même pas publié correctement. Bref, tout était à faire. Et c'est une des joies de ma vie d'avoir réussi de ce point de vue-là. Mais du moment que je devais publier les inscriptions, je devais lire tout et m'interroger un peu sur tout. Et peu à peu, ça mûrissait. Je comprenais toujours rien du tout. Et j'étais plutôt archéologue à l'époque, parce que j'avais des problèmes de terrain, de murs, de couches, d'organisation de chantier. Et puis, revenu de Rome, j'ai eu la chance, après des années d'assistant d'histoire romaine, où j'étais entre les deux eaux, j'avais été très bien formé en religion par Robert Schilling, dont j'avais suivi les séminaires et qui avait été mon directeur de thèse. J'avais été très bien formé par Jean-Pierre Vernant, d'Étienne, par le centre de Louis Gernet. Je savais travailler avec les méthodes de l'anthropologie religieuse. En plus, j'étais de formation grammairien, donc latiniste, helléniste, je savais travailler sur les sources. Et puis, tout a démarré par hasard, je passe sur le détail, Claude Nicolet m'avait demandé un chapitre pour son volume de la Nouvelle Clio, où il me dit « vous faites quelque chose sur la religion à Rome ». Et j'ai fait mon texte, et ça m'avait été très facile à cause de cette formation. Et je me suis rendu compte que j'écrivais des choses différentes de ce qui se trouvait dans les manuels récents.
C'est en écrivant, au fond, que la pensée s'est dévoilée.
Quelque chose. Ah oui. Mais je vous dis, j'étais toujours entre deux eaux, parce que c'est ça, la recherche, c'est comme les expériences de physique. Hein. Je ne me rendais pas encore entièrement compte de tout cela. Et à l'époque, notamment, on travaillait très peu sur les rites, et moi-même, je ne voyais toujours pas que j'avais de la dynamite entre les mains avec ces inscriptions. J'ai fait l'assistant d'histoire romaine, j'avais écrit ce chapitre, et je continuais à me former, à participer aux séminaires dans ce domaine, surtout du domaine grec d'ailleurs, et je faisais des fouilles. Et puis j'ai eu la chance inouïe de pouvoir être élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études, en succédant à Robert Schilling. Parce que c'est ça aussi la recherche, il faut être prêt et avoir l'âge qu'il faut au bon moment. C'est les hasards de la vie.
La chance.
J'aurais été plus jeune, j'aurais été plus vieux, ça n'aurait pas été... C'est de la chance, fortune. Et donc, à ce moment-là, j'étais obligé d'enseigner cela. Et j'ai commencé, évidemment, par travailler sur ce que j'étais en train de faire, sur mes inscriptions. Et c'est là que, peu à peu, j'ai découvert tout cela. J'ai dit, mais ces rites, c'est pas... j'y comprends rien, pourquoi ? Et j'ai compris que je regardais toujours cela avec les yeux de mes maîtres. Mes maîtres n'étaient pas comme ça. Vernon, il ne s'intéressait pas trop aux rites, mais il ne les méprisait pas. Il n'allait pas très loin. Mm-hmm. Robert Schilling était catholique, mais il ne méprisait pas les rites. Il comprenait, mais il ne voyait pas pourquoi aller plus loin. Et donc, moi, je faisais aussi, comme beaucoup, j'avais pas d'opinion spéciale, mais traditionnellement, les rites étaient considérés comme une forme dévoyée de religiosité, vestige de la préhistoire ou signe de décadence. Si vous lisez Franz Cumont, dans son grand livre sur les cultes orientaux dans l'Empire romain, vous trouvez que lui considère que tout ça, c'est décadent. C'est une opinion depuis la philosophie romantique établie. Ça n'a aucun intérêt.
Mais alors, quand est-ce que vous avez compris, au fond, que le rite était l'essence même de la religion romaine ?
Eh bien, en travaillant sur mes inscriptions et en rédigeant ma thèse d'État. Parce qu'à l'époque, on rédigeait ses thèses d'État et l'école pratique était merveilleuse, puisque je pouvais enseigner ma recherche en train de se faire, déjà. Oui. Et puis, j'avais cette masse de rites que je voyais se dérouler. Et comme j'étais préparé par les travaux sur le sacrifice et tout cela, j'ai tout d'un coup commencé à découvrir que si on prenait cela au sérieux, en essayant de comprendre cela comme des énoncés, un peu comme avec une formation linguistique, on a ce genre d'approche, comme on l'a fait pour le mythe et pour d'autres domaines, eh bien, on voyait des phrases qui se construisaient gestuellement. Et à l'époque, il y a eu aussi le livre de Austin, quand dire, c'est faire, sur le performatif,
etc. Ah oui, mais bien sûr,
etc.
Très important.
Tout cela était une tendance moi, j'arrivais pile là-dedans, je pouvais utiliser cela, parce que c'est ce que je trouvais dans mes sources. Et je voyais que les Romains perdaient beaucoup d'argent et de temps, les élites, à faire ce genre de choses. Si ça avait été inutile, ils ne l'auraient pas fait. Et donc, j'ai fait le doctorat d'État, où j'ai exposé sur les arvales un peu. J'ai dit, c'est un modèle, parce que c'est la source la plus large et la plus développée que nous ayons sur ce qu'est la religion romaine publique la plus décriée à cette époque. Et elle fonctionne très bien, elle donne satisfaction, elle vivra jusqu'au début du 5e siècle, au moment où on l'interdit, parce que le monde a changé. Mais jusqu'à ce moment-là, du moment que l'État sur lequel elle s'appuie fonctionne, où la société, où la famille, ce genre de système ritualiste fonctionne. Et donc j'ai découvert après l'altérité de cette religion. Et j'ai découvert que ce n'était pas du tout une religion isolé dans le monde antique, parce que vous n'avez qu'à prendre le judaïsme, vous avez le même ritualisme, même si c'est une religion révélée. Et je parlais avec mes collègues spécialistes du Talmud de toutes ces choses-là. Ils disent oui, c'est de cette manière que cela fonctionne. Et on,
mais oui, c'est le rituel qui fait choses.
C'est le rituel qui existe et qui est
qui fabrique,
en quelque sorte ce qui revient au mortel. C'est déjà dans Ézéchiel. Enfin, ne vous occupez pas du Très-Haut, vous n'y comprendrez rien.
Faites ce qu'il y a à faire.
Faites ce qu'il y a à faire. Les 656 règles, c'est ça, ce que l'esprit humain peut dominer. Et les Grecs, ce n'est pas différent. Sauf qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de livres, etc. Il n'y a que des traditions orales sur ce qu'il faut faire, où, comment et par qui.
Tout à l'heure, John Shedd, au début de cet entretien, vous nous expliquiez que Rome avait réussi, au fond, à adapter et à s'adapter partout dans le monde. On peut supposer naturellement que cette religion romaine y est pour quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ?
Les rites sont, en fait, quelque chose de très plat. C'est un ensemble de gestes qu'il faut faire de telle manière, à tel endroit, à tel moment. Et là, j'avoue que les cours, les séminaires de Charles Malamud sur la religion védique m'ont énormément aidé. Parce que pour eux, c'est encore une révélation, mais c'est tout à fait pareil. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de faire le rite. La signification de tout cela, c'est votre affaire. Puisqu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de vérité dictée par Dieu ou par des dieux, par un prophète, non, c'est les ancêtres. Ils disent il faut faire ça comme cela. Après, il y a 25 vérités là-dessus. Vous pouvez vous-même produire comme un jeune érudit dans une yeshiva pourra trouver la 61e interprétation d'une ligne de la Torah, peu importe si c'est complètement échevelé. Il faut que cela tienne, etc. C'est de la culture, si vous voulez, liée à la religion. Mais les rites eux-mêmes sont, en quelque sorte, vides. Ils ne sont pas si vides que cela, parce que là, il y a des opinions. Certains disent, par exemple, en Inde védique, que le rite n'a aucun sens. Moi, je suis plutôt... J'ai été influencé par Malamud, et à Rome, je dois constater comme cela, les rites ne sont pas si vides que cela, parce que si vous prenez les séquences rituelles, vous pouvez reconstituer un énoncé. Par exemple, les rites sacrificiels disent qu'il y a un ordre dans le cosmos, Jupiter, où les dieux sont en haut, ils sont immortels, tout puissants, l'homme est nettement plus bas qu'eux, il est mortel et il n'est pas, hélas, tout puissant, et on continue, même les animaux sont inférieurs aux dieux, et justement la domestication ou l'abattage de l'animal sert à reproduire ce schéma cosmologique.
Donc, c'est d'ailleurs si l'objet de votre cours, un des objets du cours que nous, avons entendu
donc
cette année sur les théologies romaines. Vous avez fait un très beau
théologie.
Commentaire d'Ovide à ce sujet, d'ailleurs.
Sur Jupiter et
sur Jupiter,
et
Numa, bien sûr.
Non, et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces rites sont quelque chose qu'on a entre les mains et qu'on n'a qu'à faire. Quel que soit, et on le voit très bien au moment des persécutions dans l'apologie chrétienne, où on raconte ces procès dont les spécialistes ont dégagé un certain nombre de documents qui risquent d'être relativement historiques et bons, ce n'est pas des recréations mythiques tardives. Et on voit les pauvres magistrats romains, les proconsuls notamment, essayer de raisonner les radicaux chrétiens qui ne voulaient absolument pas faire de compromis comme beaucoup d'autres. Ils leur disaient, mais fais ce sacrifice, peu importe, on ne te demande rien, tu n'as qu'à mettre de l'encens et du vin. tu peux penser que tu fais cela à ton Dieu. Non, etc. C'était le refus total, même des gestes. Et ça, pour les Romains, c'était incompréhensible. Mm-hmm. Et cela montre que c'est une religion dans laquelle, je dis les Romains, mais beaucoup de religions, la religion grecque et d'autres, étaient du même type, ritualistes. Vous pouviez tout de suite vous intégrer dans ces sociétés. Vous deveniez Romain par l'acte de citoyenneté. L'étranger était membre de la communauté cultuelle, voilà, puisque oui, c'est tous les citoyens qui étaient censés honorer les dieux romains.
Donc
les
c'était
dieux
un facteur d'intégration.
C'est un facteur
fabuleux.
D'intégration extraordinaire. Ouais. Quelqu'un qui devenait citoyen romain, qui était né en Turquie actuelle, pouvait absolument participer tout de suite au culte sans renier rien de sa propre culture. Parce qu'il pourrait, en participant au banquet sacrificiel, par exemple, il pouvait développer une explication dans sa culture de ce qu'il voyait. Et tout le monde l'écouterait. Il n'y a aucune raison de refuser cela. Donc, c'est encore un des éléments de l'ouverture impérialiste des Romains, si vous voulez. Ils étaient prêts pour cela. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de révélation, qu'il n'y a pas de livre et de dogme qui instaure une seule vérité. Ça, c'est plus simple quand il y a 1000 vérités. Parce que les Romains n'étaient pas choqués par ce que pouvaient raconter les Gaulois ou les Germains sur les dieux.
D'ailleurs, ils pouvaient intégrer des dieux à l'intérieur de leur système.
Il y a toujours eu, en fonction des relations...
Les Gaulois pouvaient tout à fait garder leurs dieux, comme ils l'avaient proposé d'ailleurs aux chrétiens.
Les Romains ne convertissaient personne, les Romains. Ouais, ce n'était pas dans leur état d'âme.
Et, ils ajoutaient
éventuellement, et Rome a toujours adopté des dieux d'alliés, des dieux voisins, sans aucun problème, comme les autres faisaient entrer les dieux romains.
Et donc,
ou
au fond, ils étaient tout à fait prêts à ajouter un dieu qui s'appelle Jésus.
Oui, pour eux, c'était
dans la logique des choses.
C'était dans la logique des choses, c'était une divinité comme une autre. Et quand Constantin Licinius fait le célèbre édit de Milan, qu'est-ce qui se passe? Le christianisme, Jésus ou Dieu, devient l'une des divinités qui peut être honorée publiquement à Rome. Rien d'autre. Les autres dieux sont toujours là. Quand Constantinople est fondée 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, il y a des pontifes qui y vont, il y a des dieux romains qui sont invoqués à côté du dieu chrétien. Ce n'est qu'un parmi d'autres. Et au fond, ça aurait pu continuer comme cela, mais là, il y avait quand même une opposition dans l'œuf. C'était pas possible. Quand vous avez un dieu unique qui proclame qu'il est unique et qu'il ne veut pas d'autres dieux à ses côtés, il est difficile de tolérer Jupiter et ses copains dans le panthéon. Il suffit que l'élite et les dirigeants de l'Empire, par exemple, aient le pouvoir et c'est fait. C'est ce qui arrive avec les fils de Constantin, puis il y a des hauts et des bas, et puis en 370, c'est fait, c'est fini.
C'est intéressant d'ailleurs quand on écoute ce que vous êtes en train de nous expliquer et qu'on écoute en même temps par exemple les cours de votre collègue Thomas Romer, on s'aperçoit que ce Dieu unique, il a toujours procédé comme ça depuis le départ.
Ah oui.
Il a dévoré les autres dieux et il les a chassés peu à peu, parce que dans la Bible par exemple il y a de nombreuses traces d'autres dieux que Yahvé, mais Yahvé peu à peu absorbe, etc. Et le dieu des chrétiens qui est
absolument,
le même dieu d'ailleurs,
ouais,
fera exactement la même chose, et puis au fond l'islam va faire un monothéisme presque
encore plus dur, encore
plus dur. Et donc le monothéisme, c'est ça, c'est une avancée peu à peu dans l'histoire vers une unité totale, totalisante et fermée.
Absolument. Et ça, les Romains, évidemment, personne ne s'en rendait compte à l'époque. Oui. Peut-être que des pères de l'Église qui vivaient à ce moment-là savaient et croyaient que c'est ça qui allait arriver et qu'ils œuvraient pour cela. Mais Paul Venn, dans son livre sur la conversion du monde, il dit quelque part cela, personne ne s'en est rendu compte. Quand Constantin est devenu, a gagné et a fait cette paix d'église, comme on dit, les réactionnaires romains ont grogné parce qu'ils se rappelaient que la dernière génération avait été terrible, il y avait des vraies persécutions lourdes et permanentes.
Ah,
donc les conservateurs n'aimaient pas trop ce dieu et ses adorateurs. Mais en fond, personne n'a fait sécession ou quoi que ce soit, parce qu'ils pensaient que ce serait, comme vous dites, bon, ça va s'intégrer et c'est fini. Quand Julien est devenu empereur, au fond, on revenait deux, trois générations en arrière,
oui,
avant Constantin, parce que lui, il remettait, sans toucher d'ailleurs aux chrétiens finalement, il revenait à Constantin première mouture, si vous voulez. Mais en remettant en marche tout ce qui s'était arrêté à partir des fils de Constantin. Et chose intéressante, où on voit le côté oral de cette culture rituelle, il avait des problèmes, dans certains cas, pour remettre en marche les grands sacrifices d'État. Parce que les techniciens qui faisaient cela et qui avaient le savoir avaient arrêté de fonctionner depuis deux générations. Et c'est très difficile de redémarrer cela. Les pères de l'Église, bon, quelques pères de l'Église de l'époque ont grogné parce que des évêques, ils n'ont pas aimé Julien et ce horrible païen au pouvoir.
L'apostat.
L'apostat. En plus, il avait une éducation. En plus, c'est doublement coupable. Mais il n'y a pas eu de soulèvement des chrétiens qui assistaient à ça, assez blasés. Et puis surtout, quand Julien meurt et que son successeur présumé refuse le trône, et qu'on élit Gratien, dont tout le monde savait que c'était un radical chrétien, ben, il n'y a pas eu de soulèvement des païens. Ils ont tous accepté ça comme oui, c'est un événement. Ils n'ont pas vu du tout, ils ne semblent pas avoir vu le moment historique, comme toujours. Quand un moment historique arrive, les contemporains ne se rendent souvent absolument pas compte. Et là, c'était quand même définitif, parce que progressivement, Gratien et puis Théodose, après lui, interdisent purement et simplement le culte public et mettent un terme à cela. Alors, sur le plan régional et familial, etc., ça continue. Jusqu'en plein VIe siècle, on sacrifiait encore à la cour de Byzance, hein, à des dieux tout à fait innommables. Mais c'était fini, c'est que des poches de survivance, si vous voulez.
Est-ce que le jeune Georges Dumézil a ressenti très tôt un goût pour les mythologies, un goût pour les langues ?
Oui, je suis comparatiste de nature. C'est probablement quelque chose de profond qui doit tenir à mes gènes. Quand je vois deux réalisations de l'esprit humain en architecture, en peinture, en littérature, en mythologie, etc., qui ont l'air de se ressembler, c'est une espèce de besoin de pousser à l'extrême l'observation de ce qui se ressemble et de ce qui n'est pas semblable. Alors ça, c'est une disposition générale, c'est l'inné, si vous voulez. Et puis l'acquis, ça s'est appliqué au mythe, pourquoi ? Ben, je ne peux pas bien non plus vous préciser, mais tout gosse, il s'est trouvé que mon père m'a mis entre les mains un petit livre, pas de mythologie grecque, mais où il y avait les aventures d'Héraclès et les aventures des Argonautes. En même temps que les contes de Perrault, j'ai dévoré Héraclès et Jason. Et j'aimais mieux Héraclès. Et alors ça m'a décidé d'abord à insister pour faire des études classiques, insister pour faire du grec. Enfin, je voulais parler, lire, pour parler, mais lire la langue d'Héraclès, lire la langue de Jason. Et puis, je ne savais pas ce que je ferais de mes mythes. Enfin, ils m'intéressaient, j'en aurais aussi bien fait de la littérature. Si j'avais vécu au XVIIe siècle, j'aurais écrit de mauvaises tragédies. Et puis ce qui a ensuite orienté ma vie, ça a été la rencontre d'un dictionnaire étymologique du latin.
John Shedd, est-ce que je peux vous demander d'avoir la gentillesse, au fond, d'évoquer pour nous un certain nombre de figures qui sont importantes pour la culture en France, par exemple celle de Dumézil, et puis évidemment un mot sur Jean-Pierre Vernant, auquel vous d'ailleurs dédiez votre dernier livre, « Les dieux, l'État et l'individu » publié au Seuil. Ça m'a touché que vous l'ayez d'ailleurs dédié à Jean-Pierre Vernant, que j'ai beaucoup aimé et que je crois tous les gens qui ont travaillé à France Culture ont beaucoup aimé, puisque c'était vraiment un invité presque permanent de notre chaîne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces personnes qui vous ont formé, sur ces gens, sur ces intellectuels, ces historiens magnifiques?
J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer diverses personnes. Et ces personnes, ce sont, mettons, deux personnes, Robert Schilling, qui était plutôt dans la voie très classique, c'est un professeur de latin que j'avais rencontré à Strasbourg, que j'ai retrouvé par hasard à Hautes Études, et j'ai suivi ses enseignements. Et puis l'autre était Jean-Pierre Vernant. Alors, dans un premier temps, j'étais donc dans la poursuite de mes études, Schilling qui m'a enseigné les fondements de la religion romaine en me mettant entre les mains le grand manuel allemand de 1912, Vie sauvage, je cite toujours ce personnage, qu'il fallait absolument lire et qui avait d'ailleurs une approche un peu particulière de la religion romaine parce qu'il insiste sur l'altérité. Il a eu une prise de bec, comme on dit, avec un des grands allemands de l'époque, Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, un immense helléniste, protestant, illuminé, et pour qui le ritualisme c'est une horreur, ça n'existe pas. Et seul ce qu'il appelait mystique, tel qu'on l'a trouvé dans des hymnes de la tragédie, ça méritait, ou la philosophie grecque, le nom de religion. Et Vissova a répliqué assez vertement que oui, on lui reprochait de ne pas avoir de religiosité pour sentir la religion dans les histoires des Romains et de raconter uniquement ces questions de gestes ridicules. Il disait, mais tout le monde a le droit d'être différent, les Romains aussi. Et donc déjà, Schilling était comme cela. Et puis Schilling était aussi un ami de Georges Dumézil. Georges Dumézil était déjà âgé à l'époque et il m'a donné comme conseil, quand j'avais lu ce qu'il m'avait dit de lire, je dis, qu'est-ce que je lis maintenant? Il m'a lisé tout Dumézil. Et donc j'ai lu tout Dumézil, ce qui était tout à fait extraordinaire à l'époque parce que chez les historiens et latinistes à Paris, Dumézil était banni. Parce que André Pigagnol le détestait, et donc il avait, en quelque sorte, ses élèves avaient étendu le banc de Dumézil chez les historiens, parce qu'ils avaient un différent sur les origines de Rome. C'était des culturels comme ça.
C'est magnifique.
Et les latinistes n'aimaient pas non plus Dumézil, et là, ça remontait plutôt, je suppose, à Antoine Meillet, le grand linguiste, qui avait peur des premiers travaux de Dumézil sur la mythologie, qui était assez terrible, et Dumézil d'ailleurs les a toujours reniés. C'était de la vieille mythologie, et Meillet, qui avait construit une science, la linguistique, la grammaire, respectable, et qui voulait que cela continue comme ça, était effaré parce que le jeune Dumézil écrivait après la guerre de 14 dans sa thèse et l'a envoyé en Turquie d'ailleurs très loin pour pas qu'il fasse de mal. Et je crois que cet exil a continué parce qu'on m'a toujours raconté que Dumézil n'avait jamais des contacts avec les latinistes et les historiens. Et quand j'ai fait avec Charles Malamud la nécrologie de Dumézil quand il est mort, on avait dans notre annuaire toujours une ou deux pages de biographique sur la personne disparue. On a regardé les fameux cahiers de présence qui sont une sorte de spécialité de l'école pratique et on a vu que depuis 1936 jusqu'en 1968, quand il a pris sa retraite, le seul latiniste c'était Schilling qui n'avait jamais suivi ses cours. Et tous les autres, c'est le public de Marcel Mauss. Et donc, par là, on comprend que ce que disait Dumézil choquait aussi ses collègues qui étaient encore dans une vision très traditionnelle de la religion romaine. Et Dumézil appliquait déjà ce qui deviendra l'anthropologie religieuse. Et donc, il apprenait aux gens ce qu'était un mythe, il leur apprenait ce qu'était un rite, etc. Et il disait déjà, il faudra un jour faire des analyses sérieuses des lits, des rites, etc. Et il insistait.
Vous l'aviez connu, vous l'aviez rencontré.
Et puis, à partir de 1978, je l'ai régulièrement rencontré parce que j'allais le voir, il travaillait toujours, mais il ne trouvait plus les livres dans sa bibliothèque qui si vous avez vu l'émission de Bernard Pivot, était quelque chose de post-atomique. Il y avait des mètres cubes de livres partout, et le pauvre, il ne trouvait plus rien dans ses livres. Alors moi, je lui avais proposé d'emprunter des livres à la bibliothèque de la Sorbonne, et jusqu'en 86, j'ai fait ça. Il me donnait une petite liste de livres qu'il
voulait. Il avait trop de livres, il était obligé d'en emprunter,
c'était des livres qu'il possédait.
Ah oui,
mais il ne
les trouvait plus.
Donc, il y a pendant 8 ans, on a à la Sorbonne, les archives de la bibliothèque de la Sorbonne, des fiches remplies de mon écriture au nom de Georges Dumézil. et en même temps, ça me permettait, parce qu'il ne sortait plus guère, ça permettait de discuter, parce qu'il aimait bien bavarder, notamment avec les jeunes. Et il m'a aussi là, on a beaucoup...
Il a été une autorisation pour vous.
Oui, oui, oui. J'ai testé beaucoup d'idées, etc. Et j'ai découvert Vernon en préparant l'agrégation. Ouais. Je l'ai découvert comme cela, et quand je suis revenu de Rome, j'ai régulièrement suivi ses séminaires, et j'étais dans son centre, et c'est lui qui venait de Gernet, qui a complété l'enseignement que j'avais pu retirer de la lecture et des quelques entretiens avec Dumézil, puisqu'ils étaient en quelque sorte dans le même mouvement. Et alors ce qui s'ajoutait encore à cela, c'est le côté paternel de Jean-Pierre Vernon, ouais, qui adorait les gens avec qui il vivait.
Ah, c'était un homme d'une générosité extraordinaire.
C'était une sorte de famille, ouais, si vous voulez. Ouais, ouais.
C'était un homme qui avait un charisme alors sublime. Il était généreux, ouvert,
absolument,
chaleureux et drôle. Il
et
riait
drôle,
tout le temps.
Très drôle. Je le vois encore, il avait son bureau 2-3 mètres plus loin. Et quand il passait, il tapait contre la vitre et puis il entrait, bavardait un peu et... C'était comme un père ou un grand-père, parce qu'il était quand même beaucoup plus âgé que moi. Et ça a été merveilleux. Donc l'enseignement se doublait d'une sorte de...
D'amitié.
D'amitié, oui.
En opposant au discours sectaire les armes universelles de l'histoire, de la philologie et de l'anthropologie, bref, tout l'arsenal de la science et de la raison, l'histoire des religions du passé nous met en mesure de dégonfler les mythes modernes, ceux des autres, mais également les nôtres. Elle permet de repérer la projection dans le passé imaginaire des origines de fantasmes nationalistes, religieux ou racistes, et de désarmer les interprétations outrées qui peuvent être faites des textes sacrés. John Shedd, leçon inaugurale, 2002. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, John Shedd, titulaire de la chaire consacrée à la religion, aux institutions et à la société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec une conférence de Paul Clavier, philosophe. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.
Thank you.